3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. En 1927, Robert Cornish, 22 ans, est obsédé par la résurrection. Lorsqu'il est engagé par l'Institut de biologie expérimentale de l'Université de Californie, il décide d'y consacrer ses recherches. En 1934, il décide de s'entraîner sur des chiens morts qu'il tente de réanimer à l'aide de différentes techniques. Cornish réussira à ramener deux chiens à la vie, mais ces derniers garderont de sévères dommages cérébraux. Que ce soit dans les bandes dessinées, le jeu vidéo, le cinéma ou la télévision, le zombie a acquis depuis le début du 20e siècle une remarquable popularité. Bien que souvent associé à un virus ou à un effet scientifique provenant de l'espace, le mort-vivant deviendra alors un sujet de recherche pour ces savants fous, personnes qui manqueront alors de sens commun, omnibulés par leurs recherches sans en mesurer les conséquences. Au cinéma, Frankenstein, réalisé en 1931, est sans contredit le tout premier exemple de ce type de savant qui, obsédé par la vie après la mort, créera de toutes pièces cette créature horrible à l'aide de différents morceaux de cadavres, créant lui-même la vie, tel le créateur biblique. Par la suite, nous verrons apparaître d'autres productions incluant le motif du savant fou qui ramèneront des morts à la vie, tels que Revolt of the Zombies en 1936, Voodoo Man en 1944, Creature with the Atom Brain en 1955, Dr. Blood's Coffin en 1961, Shockwaves en 1977, Zombie 2 de Lucio Fulci en 1979, Raiders of the Living Dead et Le Day of the Dead de George Romero, ces deux films produits en 1986, Resident Evil en 2002, et plusieurs autres. Mais ce sont les films produits durant la première moitié des années 80, soit Dead and Buried du réalisateur Gary Sherman, ainsi que Reanimator du metteur en scène Stuart Gordon, qui seront les meilleurs exemples du lien direct entre ces savants dérangés et l'univers des morts vivants. Donc, sortez votre badge de shérif ainsi que vos talents de scientifique excentrique et préparez-vous à sombrer dans la folie alors que je vous parlerai de deux films horrifiants qui nous démontrent à quel point la science peut devenir dangereuse si celle-ci n'est pas bien contrôlée.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket, or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater, because together we can keep the movie theater experience alive.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
This is the road to Potter's Bluff. Maybe you've been there. Clean, picturesque, full of old-fashioned friendliness. The kind of town everyone likes to visit. This is the road to Potter's Bluff. There is no road out.
Welcome to Potter's Bluff.
From the creators of Alien, terror brought down to Earth, dead and buried.
Is there any way whatsoever to reanimate people after they have died? To get them to walk around?
That guy, the one you came to see me about last week, the one that died after the car wreck.
Yeah.
I just saw him.
Man, he's dead! The same guy!
Welcome to Potter's Bluff.
When you die, you expect to remain dead and buried.
Had a very close call. Just lie still. I'm gonna give you something. It's gonna make you feel even better.
When you die in Potter's Bluff, expect the unexpected. From the creators of Alien, dead and buried. It will take your breath away. All of it. Dead and buried.
Dead and Buried, ou Réincarnation, est un drame fantastique produit et distribué par les studios AFCO Embassy Pictures le 29 mai 1981. Ce film américain d'une durée de 92 minutes aura coûté plus de 3 millions de dollars à produire. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le montant d'argent amassé au box-office. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Gary Sherman, ce réalisateur américain qui nous avait donné Poltergeist 3, Lisa et Wanted Dead or Alive. Sur la chaise du producteur, on y retrouve les producteurs américains Ronald Shusett, lui qui a produit les films Free Jack et Total Recall, Robert Fentress, ce producteur qui nous avait donné les films Total Recall, Born to be Great et Young Alexander the Great, et Richard R. St. John's, celui-là même qui avait produit les films The Final Countdown, Nightwing et Venom. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste Ronald Shusett, ce scénariste américain qui avait écrit le scénario de Above the Law, Total Recall et Free Jack, ainsi que Dan O'Bannon, ce scénariste américain qui avait travaillé sur le scénario de Alien, Dark Star et Return of the Living Dead. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur James Farentino, Melody Anderson, Jack Albertson, Dennis Redfield, Nancy Loki, Lisa Blunt et Robert Englund. Le shérif d'une petite ville américaine enquête sur une série de morts violentes et gratuites et devient de plus en plus intrigué lorsqu'il croit voir réapparaître bien vivantes certaines des victimes de ces crimes atroces. Ce sera le producteur Robert Fentress qui achètera un scénario intitulé « Dead and Buried » écrit par deux jeunes écrivains du nom de Jeff Miller et Alex Stern. Suite à cette transaction, Fentress sera présenté au producteur Ronald Shusett par l'intermédiaire d'un agent, soit Michael Werner. Fentress discutera alors de sa nouvelle acquisition avec Shusett, qui se montra très intéressé par le projet. Shusett, qui venait tout juste de coécrire le scénario du film de science-fiction Alien avec Dan O'Bannon, décidera alors d'approcher ce dernier pour travailler avec lui sur ce nouveau scénario. Les deux hommes réécriront complètement le script, O'Bannon précisant qu'il n'avait pas apporté assez de changements de sa part à ce dernier pour voir son nom inscrit au générique. Malgré cela, Chousette se montra insistant envers O'Bannon afin que ce dernier accepte de voir son nom apparaître sur le projet, croyant que cela donnerait plus de crédibilité au contenu et surtout faciliterait la recherche de financement. Chousette prendra finalement le poste de producteur et s'associera avec Film Finance Group, une division du Guinness Film Group, pour le financement de la production. Suite à cette entente, le président du Film Finance Group, Richard R. St. John's, démissionnera de son poste de président, mais restera au conseil d'administration et conservera son poste de producteur exécutif sur Dead and Buried. Quelques mois plus tard, le Guinness Film Group sera reformé sous le nom de Morrison Group, qui comprenait alors la Producers Cell Organization et la Aspen Productions, société de production créditée à l'écran. La Producers Cell Organization exploitera la connexion qu'avaient eue les scénaristes Chousette et O'Bannon en tant qu'écrivains du film de science-fiction Alien pour prévendre les droits de distribution en territoire étranger, gagnant alors suffisamment de capital pour financer la moitié du budget avant le début de la photographie principale. Par la suite, Chousette rencontrera le réalisateur Gary Sherman, qui venait tout juste de déménager de Londres à Los Angeles, ce dernier n'ayant rien réalisé depuis 1972 avec son film « Deathline ». Devenu réalisateur de publicité, Sherman fut d'abord hésitant à retourner sur la chaise de réalisateur pour un long métrage, mais sera finalement intrigué par l'aspect humour noir de l'histoire et acceptera finalement le défi. Un budget de production variant entre 5 et 6 millions de dollars sera alors accordé. Sherman embauchera alors le jeune concepteur des effets spéciaux Stan Winston, promettant à ce dernier un budget variant entre 150 000 et 200 000 dollars pour la réalisation de tous les effets, ce à quoi Winston acquiesça. Le jeune Winston recevra l'aide du concepteur d'effets spéciaux Zoltan Elek, qui remportera, lui, 4 ans plus tard, l'Oscar du meilleur concepteur d'effets spéciaux pour le film dramatique Mask. Au niveau de la distribution, James Farentino et Melody Anderson seront embauchés pour les rôles principaux. Lisa Blunt et Robert Englund, que l'on verra plus tard dans les films Prince of Darkness et A Nightmare on Elm Street, feront également partie du projet, alors que l'on assistera ici au début sur le grand écran de l'actrice Lisa Marie, qui obtiendra dans les années 90 le rôle de Vampira dans le film de Tim Burton, Headwood. Finalement, l'acteur Jack Albertson sera choisi pour le rôle de William G. Dobbs, le médecin légiste local excentrique. Ce sera ici le dernier rôle d'Albertson au cinéma, l'acteur décédant 6 mois après la sortie du long-métrage en salle. Le comédien était surtout connu pour ses rôles dans Willy Wonka and the Chocolate Factory en 1971 et The Poseidon Adventures l'année suivante. Le tournage devait commencer le 12 février 1980, mais sera finalement retardé au 23 octobre de cette même année. Ce sera la ville de Mendocino, en Californie, qui sera choisie pour le gros de la production, alors que d'autres scènes seront filmées à Hollywood, également en Californie. Le tournage ne sera pas de tout repos pour le réalisateur Gary Sherman, qui verra son concept de comédie noire être transformé en véritable film d'horreur. En effet, la Guinness Company décidera qu'elle ne voulait plus faire du cinéma. Celle-ci fut donc vendue à une société appelée Aspen Production. Cette société, dirigée par John Hyde, supervisera alors le tournage du film et donnera alors carte blanche à Sherman et Chousette de faire tout ce qu'ils voulaient avec le long métrage. Mais lorsque Dead and Buried arrivera à sa phase de montage, la Producers Cell Organization rachètera la totalité de la production à la compagnie Aspen. Suite à cet achat, le président de la Producers Cell Organization, Mark Damon, demandera que soient retirées du montage toutes les séquences d'humour noir contenues dans le long métrage, transformant alors Dead and Buried en un véritable film d'horreur rempli de sang et de violence, le gore étant beaucoup plus populaire pour le box-office durant les années 80. Malheureusement pour Damon, Sherman avait une vision dans laquelle son film ne contiendrait pas de rouge, cette couleur n'étant utilisée que dans le titre Dead and Buried. Au final, Sherman gagnera en partie son point, mais après une série de confrontations avec le président. Voulant une ambiance sordide et brumeuse, le réalisateur devra user d'originalité afin de garder cette ambiance tout au long de son film. En effet, le jour où sera tournée la scène de plage entre l'acteur Christopher Alport et l'actrice Lisa Blunt, les conditions météorologiques étaient beaucoup trop belles au goût de Sherman, qui demandera alors à son équipe technique de construire un énorme drapeau accroché à un gréement sur une falaise afin de bloquer la majeure partie de la lumière du soleil et ainsi conserver l'atmosphère sombre du long métrage. Pour l'équipe de production et les acteurs, le tournage de jour était un véritable plaisir, mais le tournage de nuit sera des plus désagréables, l'humidité, le froid et la pluie rendant plusieurs personnes malades durant la production. De plus, en raison des lois sur le travail des enfants sur un plateau de tournage, le cinéaste ne put obtenir la permission d'utiliser le jeune garçon qui interprétait le rôle de Jamie pour ses tournages de nuit. Parce que toute la scène se déroulait en pleine nuit, une immense tente sera alors construite afin de recouvrir complètement la voiture familiale ainsi que la maison où se déroulait l'action, donnant l'impression qu'il faisait noir alors que la séquence était, elle, tournée en plein jour. Pour ventiler correctement l'intérieur de la tente, afin que les acteurs et l'équipe puissent respirer, des ventilateurs y seront installés, rendant le son enregistré en direct pendant le tournage inutilisable. Toutes ces scènes furent donc redoublées par les acteurs et actrices en post-production. Finalement, le réalisateur se devait de composer avec la maladie de l'un de ses acteurs vedettes, soit Jack Albertson. En effet, malgré que ce dernier était très malade, le comédien arrivait sur le plateau de tournage en chantant et en dansant et avait demandé que soit gardé secret sa maladie au niveau des autres comédiens. Sherman savait qu'il pouvait mourir à tout moment et donc, lorsqu'arriva le moment du post-doublage de ses scènes, le réalisateur s'empressera de travailler toutes les images dans lesquelles il apparaissait. Quelques mois après la sortie du long-métrage en salle, Sherman invitera alors le comédien et sa femme à aller dîner. Le lendemain matin, soit le 25 novembre 1981, Jack Albertson décédera à son domicile de Los Angeles à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du côlon. Le tournage se terminera en décembre. Les ciseaux d'entreprise apparurent alors de nulle part, coupant ainsi plusieurs aspects comiques qui seront alors remplacés par de nouvelles scènes plus sanglantes qui avaient été demandées par les exécutifs responsables du financement, laissant au final un certain nombre de scènes terriblement déroutantes si le spectateur y prête une attention particulière. De plus, il est à noter que Stan Winston ne pourra s'occuper des effets spéciaux de ces nouvelles scènes sanglantes, forçant alors l'embauche d'une nouvelle équipe de concepteurs d'effets spéciaux. Par la suite, et ce juste pour s'assurer que personne n'essayerait de raviver l'intérêt pour cette version originale du metteur en scène, chaque copie existante de la première version du long-métrage sera retrouvée puis détruite. Le long-métrage sera diffusé durant certains festivals du film d'horreur et obtiendra un certain succès, ce qui ne sera malheureusement pas le cas une fois le film distribué en salle. Sa première aura lieu à la convention de science-fiction Fantasmacon à Los Angeles, en Californie, pendant le week-end du Memorial Day. Le film rapportera peu d'argent au box-office, ce dernier amassant seulement 216 166 $ durant son tout premier week-end, alors qu'il n'était diffusé que dans 83 salles de cinéma à travers les États-Unis, mais recevra malgré tout des éloges de la critique concernant les effets spéciaux de Stan Winston et la performance d'Albertson. Suite au désastre que sera son box-office, ce sera la compagnie AFCO Embassy Pictures qui fera l'acquisition des droits de distribution nationale, de télévision et de vente de syndication pour le film. Le long-métrage sera alors distribué en vidéo-cassette et obtiendra une certaine popularité qui, au long des années, en fera un film culte dans le milieu de l'horreur et du fantastique. Dead and Buried sera considéré comme un vidéo nasties au Royaume-Uni au début des années 1980, mais a ensuite été acquitté des accusations d'obscénité et retiré de cette liste noire. Bien que son intrigue ait été tenue secrète lors de la production, un roman écrit par l'auteur Chelsea Quinn Yarbrough et révélant l'histoire du long métrage, fut promu juste avant sa sortie en salle. Une suite avait été envisagée, mais vu les faibles recettes du box-office, ce projet fut rapidement éliminé. Mais la véritable honte avec Dead and Buried est le fait que les copies originales des bobines 35 mm n'aient pas survécu, le film Kodak à cette époque étant très instable. Chaque impression du long-métrage verra alors ses couleurs passer au rose, décolorant ainsi toutes les images. Il faudra plusieurs années avant de voir le négatif être retravaillé pour sa sortie DVD le 5 août 2003 par la compagnie Blue Underground. Du côté de la distribution, l'actrice Lisa Blount fut retrouvée morte chez elle à Little Rock, en Arkansas, le 27 octobre 2010, à l'âge de 58 ans, de cause inconnue. Du côté de l'acteur James Ferrantino, ce dernier décédera le 24 janvier 2012 des suites d'une fracture de la hanche droite au Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles, en Californie, à l'âge de 73 ans. Pour Dan O'Bannon, le scénariste et réalisateur de l'excellent Return of the Living Dead, ce dernier décédera des complications de la maladie de Crohn à Los Angeles le 17 décembre 2009, à l'âge de 63 ans. Finalement, le concepteur des effets spéciaux Stan Winston décédera à l'âge de 62 ans des suites d'un cancer du sang le 15 juin 2008 à Malibu, en Californie. Dead and Buried demeure une des œuvres les plus impressionnantes du concepteur d'effets spéciaux, notamment pour la séquence de l'aiguille dans l'œil qui fut tournée à l'envers afin de garantir que l'actrice piquerait correctement l'œil au bon endroit, ainsi que celle de la reconstitution du visage de l'une des victimes, reconstitution qui sera effectuée sur l'écran par les véritables mains de Winston. Du côté des points forts, eh bien, l'on se voit donner ici une variation originale sur le thème des morts vivants, un film dont l'intrigue est digne d'un film d'Alfred Hitchcock, donnant plus l'aspect d'un drame policier que celui d'un film d'horreur. Le suspense est bien maintenu par le réalisateur grâce à une mise en scène méthodique, une ambiance des plus morbides et surtout une excellente distribution tant au niveau des personnages principaux que secondaires. Il faut également souligner l'excellent travail du concepteur des effets spéciaux Stan Winston, qui nous donne ici des maquillages soignés et des effets horrifiants avec des effets spéciaux simples mais efficaces, de quoi satisfaire les amateurs du genre. Dead and Buried est également un véritable hommage au vieux comic book de EC Comics de l'époque, avec son histoire tordue, digne d'un des meilleurs épisodes de la vieille série de Rod Sterling, The Twilight Zone. Mais du côté des points faibles, eh bien, le film a un style très lent et une image très sombre, ce qui pourrait causer un certain ennui chez certains spectateurs. De plus, bien que le scénario soit bien écrit, n'en demeure pas moins que certains dialogues sont quelque peu simplistes. La première moitié du film semble aller dans toutes les directions, ce qui pourrait frustrer l'auditoire, mais il faut être patient, car tout va se placer dans la dernière demi-heure. Finalement, bien que l'on comprenne comment les morts sont ramenés à la vie, le fait que le docteur réussisse l'exploit à la fin sur sa propre personne n'est point expliqué. Une petite facilité ici du scénario, tout comme le fait que les morts vivants n'aient aucune mémoire de ce qui leur est arrivé et de ce qu'ils ont fait, précédemment. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Joe Renzetti qui s'est occupé de la trame sonore ici, lui qui avait travaillé sur les musiques de films de The Exterminator, de Buddy Holly Story, Lisa et Vice Squad. Je vous fais écouter ici la musique thème du film Dead and Buried. Thank you.
projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of Taste Thrill Treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
You enjoy the movies, like to know what the stars do on and off the set. It's good to know what's new. Then read all about it in the ABC Film Review. Collect those colored pin-ups of the guys and gals who send you Hollywood gossip, gets here right on cue. So read all about it in the ABC Film Review. The latest list they write about, collectors corner they sat about. So many things to find out about, it's over to you in Film Review. Read all about the big time, what the big time stars all do. Every month just buy that ABC Film Review. Every month just buy Film Review.
Time now for your barbecue break. Treat yourself right now to that good old Southern style Just Right barbecue. Steeped in taste-tingling barbecue sauce, made just right from fresh, firm choice ingredients. The recipe handed down for generations and cooked Southern style to tender perfection. Slowly, hour after hour, capturing the taste-tempting barbecue flavor. It's just right tender goodness, generously spooned on a fresh, soft bun for you. It's hard to wait. It smells so good. And oh boy, it is lip-smacking good. Here it comes. Your Southern style just right barbecue on a bun with all the delicious trimmings. A snack to remember. Enjoy it now along with your choice of hot or cold drinks. It's a favorite of all the family. Just try the best barbecue in the land that made barbecue famous. It's Southern style just right barbecue.
See your next movie completely free. And now, on with the show.
Herbert West is at the top of his class in medical school.
How can you teach such drivel? These people are here to learn, and you're closing their minds before they even have a chance.
What are you? He's brilliant, but a little weird.
I've broken the 6 to 12 minute barrier. I've conquered brain death.
His experiments have always been unorthodox.
It was dead.
But lately, they're getting out of hand. And he's just made a discovery that could wake up the dead.
Herbert West has effected reanimation in dead animal tissue.
What are you thinking? How do you feel? You?
15 cc's of reagent being administered.
Once you wake up the dead, you've got a real mess on your hands.
Dead? Not anymore.
Herbert West brought a lot of dead people back to life. And not one of them showed any appreciation. H.P. Lovecraft's classic tale of horror, Reanimator.
Mr. West.
You'll never get credit for my discovery. Who's going to believe a talking head? Get a job in a sideshow.
It will scare you to pieces.
Reanimator, ou Réanimateur, est un drame d'horreur qui a été distribué par les studios Empire International Pictures le 18 octobre 1985. Ce film américain d'une durée de 86 minutes a coûté 900 000 $ à produire et amassera plus de 2 millions de $ au box-office nord-américain. Au niveau de la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Stuart Gordon, ce réalisateur américain qui a réalisé les films From Beyond, Dolls, Fortress et Robot Jocks. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Brian Yosna, lui qui avait travaillé sur les films Warlock, Dolls, From Beyond et Dagon. Et au niveau de la scénarisation, on y retrouve les scénaristes américains Dennis Paoli, lui qui avait travaillé sur Ghoulies 2, Castle Freak et The Dentist, William G. Norris, lui qui avait travaillé sur Reanimator, et finalement Stuart Gordon, lui qui avait écrit les scénarios de Honey, I Shrunk the Kids et Body Snatchers. Dans la distribution, on y retrouve Jeffrey Combe dans le rôle de Herbert West, Bruce Abbott, Barbara Crampton, David Gale, Robert Sampson et Al Berry. Chassé d'une école médicale suisse pour ses expériences téméraires, un étudiant en médecine s'inscrit dans une université américaine et prend pension chez un condisciple qui lui permet d'installer un laboratoire dans son sous-sol. Ayant mis au point un sérum qui rend possible la réanimation des morts, le scientifique fou force alors son confrère à l'aider dans ses expériences horrifiques. Herbert West Reanimator est une nouvelle d'horreur de l'écrivain américain H.P. Lovecraft qui fut écrite entre octobre 1921 et juin 1922. Celle-ci sera publiée pour la première fois de février à juillet 1922 dans la publication amateur Homebrew, qui était alors produit et distribué par l'un de ses amis, George Julian Haunton. Puis, nous arrivons en 1947, à Chicago, où naîtra Stuart Gordon, qui se fera connaître plus tard pour son théâtre expérimental et parfois controversé à l'Université du Wisconsin à la fin des années 1960. De retour à Chicago, il fondera et dirigera l'Organic Theater Company, pour lequel il fut également directeur artistique. C'est avec cette compagnie, durant les années 70 et le début des années 80, qu'il produira et mettra en scène plus de 37 pièces de théâtre. Dès son jeune âge, Gordon souhaitera faire du cinéma et quittera pour Hollywood au début des années 80. Alors qu'il avait une discussion avec des amis un soir sur les films de vampires, quelqu'un lui demandera s'il avait lu Herbert West Reanimator de H.P. Lovecraft. Gordon avait lu la plupart des œuvres de l'auteur, mais pas cette histoire, et ira à la Bibliothèque publique de Chicago pour lire le volume. À l'origine, Gordon désirait adapter l'histoire de Lovecraft pour le théâtre, mais décidera finalement avec les écrivains Dennis Paoli et William Norris d'adapter l'univers du scientifique fou pour la télévision à l'aide d'un épisode pilote d'une demi-heure qui se transformera par la suite en un épisode d'une heure. L'histoire orogonale se déroulant au tout début du 20e siècle, les trois hommes comprendront très rapidement que ce monde serait beaucoup trop onéreux à recréer et décideront alors de placer l'action de nos jours à Chicago avec bien sûr la ferme intention d'utiliser des acteurs de la compagnie Organic Theater. Plus de 13 épisodes seront alors écrits. Mais ce sera finalement le technicien des effets spéciaux Bob Greenberg, qui avait travaillé sur le film de science-fiction Dark Star de John Carpenter, qui suggérera à multiples reprises à Gordon que seul le marché cinématographique ne pouvait fonctionner pour l'horreur et le présentera finalement au jeune producteur sans expérience Brian Yuzna. Malgré un début plus tardif dans l'industrie, Yuzna débutera à Hollywood dès son arrivée à Los Angeles. Après avoir essayé de nombreux chapeaux différents dans le monde du cinéma, Yuzna se trouvera finalement attiré par le travail de producteur. Ce fut en essayant de faire décoller un film d'horreur à petit budget que Yuzna fut présenté à Stuart Gordon et les deux hommes deviendront très rapidement amis. Ce sera d'ailleurs Yuzna qui convaincra Gordon de se rendre à Hollywood afin de tourner son film d'horreur, principalement à cause de tous les effets spéciaux impliqués dans le projet. Yuzna deviendra alors le producteur du long-métrage et conclura un accord de distribution avec la jeune compagnie Empire Pictures de Charles Band en échange de services de post-production. Ben, qui travaillait dans le domaine cinématographique depuis le début des années 70, avait fondé cette compagnie de production en 1983 et avait jusqu'à présent produit 5 longs-métrages à petit budget, dont Trancers et Ghoulies. Un budget de moins de 1 million de dollars sera alors entendu avec Charles Band, ce qui permettra alors à Stuart Gordon, Dennis Pauly et William Norris de retravailler leur scénario, dont la toute première ébauche était beaucoup plus sombre et sans humour. Durant la réécriture, Gordon sera fortement inspiré par le film The Revenge of Frankenstein, film produit par la Hammer Film en 1958. Une fois le scénario terminé, Gordon et Usna embaucheront avec l'aide de Bob Greenberg le concepteur des effets spéciaux John Nolan, qui sera alors assisté du superviseur Brett Culpepper afin de réaliser tous les effets du film à l'aide d'un budget très restreint. Au niveau de la distribution, ce sera l'acteur Jeffrey Combs qui sera choisi pour le rôle d'Herbert West, Combs n'ayant jamais lu de H.P. Lovecraft avant son embauche et sera fortement surpris par le scénario, acceptant le rôle principalement parce qu'il avait besoin de l'argent et croyant que le film n'atteindrait jamais un large public. Bruce Abbott et Robert Sampson seront par la suite embauchés. Pour le rôle féminin, l'actrice Barbara Crampton n'obtiendra le poste que lorsque la première actrice choisie fut horrifiée à la lecture du scénario et quittera alors la production. Du côté de David Gale, le personnage du Dr. Hill avait été écrit avec l'acteur Christopher Lee en tête, mais lorsque ce dernier refusera l'emploi, Gale sera alors engagé. Le tournage débutera le 28 novembre 1984 avec un calendrier de tournage de 6 semaines. À l'origine, Gordon devait tourner son film en noir et blanc à l'aide d'une caméra 16 mm, mais en sera dissuadé par le directeur de la photographie suédois, Mac Alberg. En effet, après avoir visionné les premières séquences filmées, Charles Band des studios Empire s'impliquera beaucoup plus dans la production et suggérera fortement le recrutement de Alberg, qui obtiendra alors la difficile tâche d'éclairer et de tourner le long métrage. Le plus grand défi de la production sera la conception des effets spéciaux. Plus de 24 gallons de sang seront utilisés durant le tournage. Pour le zombie sans tête du Dr. Hill, ce sera le concepteur des effets spéciaux Tony Doblin qui s'occupera de la conception des effets mécaniques et sera alors confronté à un problème de proportion une fois la tête retirée du corps. Chaque scène l'obligera à utiliser une technique totalement différente de la précédente. Les cerveaux, quant à eux, furent constitués de sous-produits de viande de bœuf haché et de faux sang. Durant le tournage d'une des scènes finales du film, durant laquelle une tête devait être jetée sur une porte pour ensuite s'écraser contre le mur d'un corridor d'hôpital, tous les membres de l'équipe de production située derrière les caméras étaient revêtus de sacs à ordures par-dessus leurs vêtements, car personne ne savait à quel point le cerveau allait éclabousser lors de l'impact. Pour obtenir l'effet fluorescent de l'agent de réanimation, Nolan utilisera du luminol, un agent liquide se trouvant à l'intérieur des bâtons lumineux. Ce sera la toute première fois de l'histoire du cinéma que sera utilisé ce produit pour obtenir un effet fluo, la seconde étant utilisée pour créer le sang du prédateur en 1987. La conception de la morgue fut inspirée, elle, par la morgue du comté de Cook en Illinois, qui avait été récemment construite et dotée d'une technologie de pointe. Gordon optera pour son style, estimant que les vieilles morgues avaient été exagérées dans les films d'horreur d'époque. John Nolan et Stuart Gordon utiliseront un livre de médecine afin de bien présenter ce à quoi ressemblerait un cadavre réanimé, créant ainsi une variété de tons de peau étranges. Fait cocasse, le premier homme réanimé à la morgue n'est nul autre que Peter Kent, le cascadeur personnel d'Arnold Schwarzenegger sur plus de 14 films allant de The Terminator en 84 jusqu'à Jingle All the Way en 1996. Au final, le tournage du long-métrage, qui se fera à Pasadena et à Los Angeles en Californie, sera complété en seulement 4 semaines. Après la fin de la production, le comédien Bruce Abbott donnera à l'actrice Barbara Crampton sa veste en jean qu'il utilisa durant le tournage, vêtements qu'elle possède encore à ce jour. La partition musicale du film fut composée par Richard Benn, qui travaillait dans le domaine depuis 1978. La création de l'œuvre durera environ 3 semaines et demie et sera enregistrée en Italie avec l'Orchestre philharmonique de Rome. Ben s'inspira de la musique de Bernard Herrmann pour le film Psycho d'Alfred Hitchcock en 1960. Cependant, le compositeur dépassera de 2 jours son calendrier de production et dut investir 1 500 $ de sa propre poche pour terminer la musique du long-métrage. Le montage initial de Reanimator dura plus de 2 heures et demie, mais sera réduit à 87 minutes pour sa sortie en salle. Le film sera tout d'abord présenté au Festival de Cannes, puis amassera le prix du meilleur film lors du Festival international du film de Catalogne en 1985. Reanimator obtiendra également le prix du meilleur film et des meilleurs effets spéciaux lors du Fanta Festival de 1986, ainsi que des nominations au prix du meilleur film d'horreur et des meilleurs maquillages lors de l'Académie des films de science-fiction fantastique et horreur en 1986. Finalement, Reanimator recevra une mention spéciale horreur au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1986. Lorsque le long-métrage d'horreur devait sortir dans les salles commerciales nord-américaines, les producteurs n'avaient pas soumis leur œuvre à la Motion Picture Association of America de peur de recevoir une cote X, ce qui veut dire que le film n'aurait pu être vu que par des gens âgés de 17 ans et plus. Cependant, cela présentera des restrictions publicitaires car de nombreux médias avaient une politique contre la promotion de films non classés. Avant sa sortie en salle, le long-métrage sera diffusé pendant plus de 4 semaines au Royal Theatre à San Francisco afin d'en faire la promotion. Reanimator sera par la suite distribué dans plus de 129 salles à travers toute l'Amérique du Nord, soit le 18 octobre 1985, et amassera un total de 543 728 $ durant son tout premier week-end. Au début de 1986, les producteurs soumettront finalement une version remontée du long-métrage à la MPAA, qui recevra alors une cote « restricted ». Cette nouvelle version censurée durera plus de 93 minutes, supprimant une grande partie du gore et remplaçant celle-ci par diverses scènes qui avaient été supprimées au montage initial, y compris une intrigue secondaire impliquant le Dr. Hill hypnotisant certains personnages de l'histoire pour les rendre plus suggestibles à sa volonté. Une autre courte scène sera également ajoutée, dans laquelle Herbert West s'injecte lui-même de petites quantités de son produit pour réanimer les morts afin de rester éveillé et plein d'énergie. La version non censurée sera alors appelée The Director's Cut. Ceci est cependant faux, puisque Stuart Gordon n'a jamais été autorisé à être présent lors du montage final sur aucune version du film. Cependant, Gordon exprimera tout de même une préférence pour la version non classée par rapport à la version restricted. Cette version non classée de Reanimator sera interdite dans la province canadienne de l'Ontario où seule la version restricted ne sera disponible, incluant en vidéocassette. Il faudra attendre la sortie en DVD de l'édition du millénaire afin de voir toutes les scènes sanguinolentes, cette édition étant produite par la compagnie Encorby. Durant le visionnement du film, la femme de l'acteur David Gale sera choquée par la scène où la tête du personnage interprété par Gale s'apprête à violer l'actrice Barbara Crampton allongée nue sur une table d'opération. La femme quittera en trompe le cinéma et un divorce surviendra quelque temps après. En 2013, une version Blu-ray sera distribuée, version qui comprenait également une nouvelle édition du montage dans laquelle le matériel supplémentaire de la version classée R fut incorporé dans la version non classée, faisant passer le film de 86 minutes à un peu moins de 105 minutes. Du côté littérature, une adaptation du scénario sera écrite par Stuart Gordon, Dennis Paoli et William G. Norris et publiée par Pocket Books en décembre 1988. Quelque temps après la sortie du long-métrage, une poursuite de plus de 11 millions de $ fut déposée contre Charles Band et la compagnie de distribution Vestron Video Incorporated par le producteur Brian Usna, qui a affirmé qu'il n'avait nullement donné son consentement sur le montage de la version Restricted et que les bénéfices n'avaient pas été correctement divulgués. Une injonction fut alors déposée pour empêcher Ben de poursuivre la distribution de la vidéocassette, mais celle-ci fut rejetée. Deux suites réalisées par Yuzna seront produites par la suite, soit The Bride of Reanimator en 1991 ainsi que Beyond Reanimator en 2003, les deux films mettant en vedette l'acteur Jeffrey Combs dans le rôle d'Herbert West. Le producteur-réalisateur Brian Yuzna annoncera qu'il avait une idée pour un quatrième film qui s'intitulerait Island of Reanimator et qui serait un hommage au roman d'H.G. Wells, The Island of Dr. Moreau. Malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour. En 2011, Stuart Gordon écrira et réalisera une version théâtrale intitulée Reanimator the Musical qui sera alors présentée à Broadway. Suite au succès de celle-ci, la pièce sera par la suite présentée dans d'autres villes américaines telles que Los Angeles et Las Vegas, et ce, jusqu'en 2014, remportant divers prix. Le personnage d'Herbert West est par la suite apparu dans un certain nombre d'adaptations de bandes dessinées par différentes compagnies telles que Adventure Comics avec les titres Reanimator in Full Color et Reanimator Dawn of the Reanimator, Zenescope Entertainment avec The Chronicles of Dr. Herbert West et finalement Dynamite Entertainment dans lequel le personnage d'Herbert West sera confronté à Ash Williams de la série Evil Dead. De plus, West sera également confronté à Vampirella dans Vampirella vs. Reanimator, ainsi que contre Hack Slash de la compagnie Devil's Due Publishing, où il apparaîtra en tant que personnage secondaire. L'acteur David Gale décédera suite à des complications reliées à une opération à cœur ouvert le 18 août 1991 à Los Angeles, en Californie. Il n'était âgé que de 54 ans. L'acteur Robert Sampson, qui interpréta le père de Megan dans le film, décédera paisiblement le 18 janvier 2020 à l'âge de 86 ans à Santa Barbara en Californie. Finalement, le réalisateur Stuart Gordon nous quittera le 24 mars 2020 des suites d'une défaillance d'organes multiples à l'âge de 72 ans à Van Nuys à Los Angeles. Avec le temps, Reanimator obtiendra le statut de film culte. Du côté des points forts, eh bien, l'attraction principale de ce film d'horreur est sans aucun doute la prestation exceptionnelle de l'acteur Jeffrey Combs dans le rôle-titre, l'acteur mélangeant charisme et sarcasme, le tout avec une intensité convaincante. Le réalisateur ici nous donne, comme toute première réalisation, un récit rempli d'action et de suspense, le tout entremêlé d'un humour tordu tout à fait mordant. Le rythme est très bien soutenu et l'auditoire saura y trouver son compte à travers une histoire exagérée, profitant d'effets spéciaux impressionnants et fort habiles pour l'époque. Le générique d'introduction est juste sublime, tout comme la musique de Richard Band, qui en profite ici pour rendre hommage à un grand de la musique de film. En tout et pour tout, Reanimator est un petit délice cinématographique mené d'une main de maître, et ce, malgré son tout petit budget. Mais du côté des points faibles, eh bien, le scénario, bien que bien dosé, comprend des dialogues quelque peu simplistes, ce qui donne droit à des prestations en général artificielles, notamment l'acteur David Gale ici, qui fait malheureusement de l'overacting. Même la mise en scène par moment pourrait paraître simpliste et maladroit, nous rappelant continuellement que l'on regarde ici un film à budget restreint. Ce sera d'ailleurs la raison première pour laquelle la conclusion nous laisse quelque peu sur notre faim, cette dernière ne cessant de monter le niveau de possibilité au niveau du gore, mais qui nous amène une fin qui manque de finition et d'effets grandioses, le tout finissant beaucoup trop rapidement, nous laissant ainsi sur notre appétit quelque peu. Bien que très sanglant et over the top pour son époque, l'auditoire du 21e siècle risque d'être un petit peu déçu, celui-ci étant habitué à beaucoup plus, mais n'empêche que le concept est là et que le spectacle final est amusant à souhait. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain Richard Band qui s'occupe de faire la musique ici, lui qui avait réalisé les trames sonores des films Laser Blast, Metal Storm, The Destruction of Jared Sin et Puppet Master. Je vous présente ici le musique thème du film Reanimator. We'll be right back. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Dead and Buried 4. J'y vais également avec un 4. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film Dead and Buried 13 ans indicatif. J'y vais également avec un 14 ans ferme à cause de violence. Du côté de Reanimator, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec un 4. Belle petite surprise pour un film de petit budget. Au niveau de la régie du cinéma, eh bien, le film Reanimator est coté 13 ans indicatif. J'y vais également avec un 14 ans ferme, malgré que je vous dirais que j'ai une petite tendance à aller vers le 18 ans, notamment pour certaines scènes de nudité et puis aussi une violence qui est un petit peu graphique, malgré que, comme je disais un peu plus tôt, on est habitué de voir plus au niveau de la violence. Au niveau de la musique du film, eh bien, du côté de Dead and Buried, ce sera l'étiquette Shure Phonograph qui va sortir la trame sonore du film Dead and Buried le 6 août 2021. Donc, ça a pris énormément de temps d'avoir la musique de ce film-là. Alors que du côté de Reanimator, eh bien, on a plusieurs versions. Vous avez bien sûr la version qui a été sortie par l'étiquette Varese Sarah Band en 1985. Vous avez la Definitive Edition de Reanimator qui a été distribuée par les étiquettes La La Land Records le 21 octobre 2003 à seulement 3000 exemplaires. Vous avez également Reanimator, la First Pressing Limited Edition qui a été distribuée par l'étiquette Waxwork Record le 30 juillet 2013. Et finalement, vous avez Intrada qui a sorti une version raccourcie de la trame sonore de Reanimator le 20 janvier 2014. Vous avez également la possibilité d'avoir la trame sonore de Reanimator en duo pack, soit celle qui a été faite par Silver Screen, c'était Reanimator et Bride of Reanimator, ainsi que la version limitée à 1000 copies de l'étiquette Instrada qui lui mettait en vedette Ghoulies et Reanimator. Ça, ça a été distribué le 11 mai 2009. Du côté du DVD, du Blu-ray, eh bien, le film Dead and Buried est disponible en DVD, en Blu-ray, ainsi qu'en 4K, ne comprenant que la version originale anglaise. Du côté de Reanimator, eh bien là, il y a plusieurs choix possibles. Vous avez le film en DVD, en Blu-ray. Vous l'avez dans plusieurs versions différentes. Je vous suggère personnellement, si vous êtes capable de mettre la main dessus, l'édition européenne qui comprend le film à 105 minutes. Donc, vous avez toute l'histoire et tous les effets spéciaux. La version de 86 minutes, qui est celle que vous allez retrouver plus facilement sur le marché, elle comprend tous les effets spéciaux, mais il manque des segments d'histoire, ce qui fait que des fois, quand vous regardez le film, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Mais si vous avez la chance de mettre la main sur la version européenne de 105 minutes, achetez-vous cette version-là. Je pense que c'est la meilleure version qu'on peut trouver sur le marché. Vous avez également un coffret qui comprend la trilogie au complet de Reanimator. Ça, ça se trouve seulement en DVD. Donc, vous avez Reanimator, vous avez Bride of Reanimator et également Beyond Reanimator. Donc, ça également, c'est un petit coffret qui peut être intéressant à mettre dans sa collection de DVD. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.